Chapitre 27. Les mois de janvier et de février se passèrent sans autres événements remarquables pour la famille Bennett. Et vers les premiers jours de mars, Elisabeth devait se rendre à Hunsford. D'abord, elle n'avait point sérieusement pensé à faire ce voyage. Mais voyant que Charlotte en parlait dans toutes ses lettres, elle s'accoutuma peu à peu à le regarder comme une chose arrêtée. L'absence avait augmenté son désir de revoir Charlotte et diminué son antipathie pour M. Collins. Et comme avec une mère et des sœurs si peu sociables, les veillées à Longbourn se passaient assez tristement, un changement de lieu ne laissait point d'offrir quelque charme. Ce voyage lui procurerait aussi le plaisir de voir sa chère Hélène. Et quand le jour du départ approcha, le moindre délai l'eût fort contrarié, mais tout se décida enfin au gré de ses désirs. Le seul chagrin qu'elle éprouva, ce fut de quitter son père, pour qui la société, elle le savait, était nécessaire, et qui, la voyant partir, en parut si peu satisfait, qu'il lui dit une ou deux fois de lui écrire, et fut même jusqu'à promettre de lui répondre. L'adieu entre elle et Wickham fut fort amical. Du côté de Wickham, peut-être plus qu'amical. Ses nouveaux projets ne pouvaient lui faire oublier qu'Elisabeth avait été la première à recevoir ses soins, la première à l'écouter, à le plaindre. Elle lui avait plu la première, et dans sa manière de lui dire adieu, de lui souhaiter une bonne santé, un voyage agréable, de lui rappeler ce qu'il avait à attendre de Lady Catherine, et dans sa confiance que leur opinion sur cette dame, sur Rosings, sur tout enfin, coïnciderait toujours, il y avait une sollicitude, un intérêt, qui persuada à Elisabeth que jamais elle ne l'oublierait, et que, marié ou non, il serait toujours pour elle le modèle des hommes aimables. Ses compagnons de voyage n'étaient pas de ceux qui eussent pu lui faire penser à Wickham d'une manière moins favorable. Sir William Lucas et sa fille Maria, bon enfant mais tout aussi nul que son père, n'avaient rien à dire qu'on pût avec plaisir écouter. Les ridicules divertissaient, il est vrai, Elisabeth, mais elle connaissait trop bien ceux de Sir William. Il ne pouvait rien lui apprendre de nouveau sur sa présentation à Saint James, son habit de cour, le salon de la reine, et ses compliments étaient au moins aussi fades que ses récits. Ce n'était qu'un voyage de 24 miles, et ils le commencèrent d'assez grand matin pour être à la rue de Grace Church avant midi. Arrivés à la porte de M. Gardiner, ils virent Hélène, qui, à une des fenêtres du salon, attendait leur arrivée. En entrant dans le vestibule, Hélène y était pour les recevoir, et sa sœur, la regardant attentivement, se réjouit de la voir aussi belle, aussi bien portante que de coutume. Sur l'escalier était une troupe de petits enfants, trop impatients d'embrasser leur cousine pour rester au salon, mais aussi trop timides, ne l'ayant point vue depuis un an, pour approcher davantage. Tout fut joie et bonheur, et le jour se passa fort agréablement, la matinée à faire des emplettes, et le soir au spectacle. Alors Elisabeth prit place auprès de sa tante, et sa sœur fit le sujet de leur premier entretien. Elle apprit avec plus de chagrin que de surprise qu'Hélène, malgré tout son courage, laissait parfois apercevoir sa tristesse. Il y avait cependant tout lieu d'espérer que cela ne pourrait durer longtemps. Madame Gardiner alors plaisanta sa nièce sur la retraite de Wickham, et loua surtout l'indifférence avec laquelle elle se voyait ainsi délaissée. « Mais, ma chère Elisabeth, ajouta-t-elle, cette mademoiselle King est-elle aimable ? Je serais vraiment fâché de penser que l'intérêt seul guide notre ami. » »« Quelle différence y a-t-il, je vous prie, répondit Elisabeth, en fait de mariage, entre des motifs prudents et des motifs intéressés ? Je serais bien aise de savoir où la discrétion finit et où commence l'avarice. L'hiver dernier, vous craignez qu'il ne m'épousât, parce que cela eût été, selon vous, imprudent. Et aujourd'hui qu'il cherche à plaire à une femme qui n'a cependant que 10 000 livres sterling, vous voulez le croire intéressé. D'abord, répondez à ma question sur Mademoiselle King, et je saurai ce que je dois penser. C'est une fort bonne fille, à ce que je crois. Je n'en ai jamais ouï dire de mal. Mais il ne lui rendait nul soin avant que la mort de son grand-père ne l'eût laissé maîtresse de cette fortune. Non, pourquoi l'eût-il fait? S'il ne lui était pas permis de s'attacher à moi parce que je n'avais point de fortune, à propos de quoi aurait-il cherché à se faire aimer d'une femme dont il ne se souciait point et qui était encore moins riche que moi? Mais lui offrir ses vœux sitôt après cet événement, ce n'est pas, ce me semble, un procédé fort délicat. Un homme sans fortune n'a pas comme un autre le loisir d'observer si minutieusement les convenances. Si d'ailleurs la jeune personne ne s'y refuse point, pourquoi voudrions-nous y trouver à redire? Que Mademoiselle King ne s'y refuse point ne saurait justifier Wickham. Cela prouve seulement que cette demoiselle n'est pas des plus sensées. « Eh bien, soit !» s'écria Elisabeth. « Croyons, puisque vous le voulez, qu'elle n'est qu'une sotte, et lui un homme fort intéressé. » « Non, Lizzie, ce n'est point là mon désir. Je serais fâché, vous le savez, de penser mal d'un jeune homme qui a vécu si longtemps dans Derbyshire. Oh, s'il ne tient qu'à cela, j'ai, je vous assure, une très pauvre idée des jeunes gens de Derbyshire. Et leurs intimes amis qui habitent Hereford ne valent guère mieux. Je suis las d'ouïr parler de ces beaux sires. Grâce au ciel, demain, je vais revoir un homme qui n'a ni bon sens, ni esprit, et qui ne possède aucune qualité aimable. Après tout, les sots sont les seuls gens bons à connaître. Ah, Lizzie, prenez garde, cette dernière phrase n'annonce point un cœur satisfait. » Avant que la fin de la pièce ne les vînt séparer, Elisabeth fut invitée à accompagner sa tante et son oncle dans une tournée qu'ils devaient faire vers les premiers jours de l'été. « Nous ne savons pas encore jusqu'où nous irons, » dit Madame Gardiner. « Peut-être visiterons-nous les lacs de Cumberland. » Nul projet ne pouvait être plus agréable pour Elisabeth, et l'invitation fut acceptée avec joie et reconnaissance. « Oh, ma tante bien-aimée !» s'écria-t-elle. « Quel délice ! Quel bonheur ! Adieu chagrin, adieu tristesse ! Que sont des hommes comparés à des lacs, des montagnes ? Oh, combien nous passerons de moments délicieux ! Et à notre retour, que de belles choses à raconter ! Avec quel plaisir nous nous rappellerons les beautés que nous aurons tant admirées ! Les lacs, les rivières, les rochers ne formeront point un chaos dans notre imagination, et lorsque nous voudrons décrire quelque site favori, nous ne discuterons point sur sa situation, et nos transports seront, je l'espère, moins insupportables que ceux de la plupart des voyageurs. »